Alors, vous savez, ce qu'on dit à table, en famille ou avec des amis à l'apéritif, il y a deux sujets qui fâchent. Deux sujets un peu tendus. La religion et la politique. Et ce matin, je vais faire un mélange des deux. La foi et la politique, la religion et la politique. Alors, je prends des précautions, je n'ai pas le fin mot de l'histoire, de cette relation entre la foi et la politique, et j'ai conscience que je suis sur une pente glissante en parlant de politique ce matin ici, mais quand même, de temps en temps, il faut faire ce mélange, il faut en parler. Personnellement, le week-end, le dimanche 9 juin et le lundi 10 juin, j'étais pas bien. Après les élections européennes, qui n'avaient rien d'européenne d'ailleurs, on a très peu parlé de l'Europe, en France en tout cas, et puis après le lundi, la dissolution, les dissolutions ou la dissolution du Parlement français, de l'Assemblée parlementaire. Ça faisait beaucoup pour un début de semaine, hein, dimanche, lundi, et j'étais troublé, j'étais anxieux, légèrement anxieux, j'étais angoissé, enfin, je me posais pas mal de questions. Alors j'ai eu le bon réflexe, celui de lire la parole de Dieu, de lire la Bible dans le petit calendrier qu'Yvonne a cité ce matin. Elle a lu déjà son texte du jour. 6 ans avec de lecture de la Bible. Et il y a une application aussi, vous pouvez avoir ça sur portable, comme ça on est nombreux à lire les mêmes textes. Et ce lundi, alors je l'ai lu dans l'après-midi, hein, les événements ont déjà eu lieu, je ne suis pas comme Yvonne qui lit tous les matins, moi c'est plutôt l'après-midi, le soir. C'était le psaume 146. Et ce psaume m'a fait du bien dans le contexte que l'on vivait, dans lequel on vivait. Louer l'Éternel, que de tout mon être, je loue l'Éternel, je veux louer l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu en musique tout au long de mon existence. Ne placez pas votre foi dans les puissants de ce monde, ni dans des humains incapables de sauver. Dès qu'ils ont poussé leur dernier soupir, ils retournent à la terre, et au même instant, leurs projets s'évanouissent. Heureux l'homme qui a pour appui le Dieu de Jacob, et dont l'espérance est dans l'Éternel son Dieu. Car l'Éternel a créé le ciel et la terre, ainsi que la mer et tout ce qui s'y trouve, lui qui reste à jamais fidèle. Il fait droit aux opprimés, il nourrit les affamés. L'Éternel relâche ceux qui sont emprisonnés. L'Éternel rend la vue aux aveugles, l'Éternel relève celui qui fléchit, l'Éternel aime les justes, l'Éternel protège l'étranger, il est le soutien de la veuve et de l'orphelin, mais il fait dévier le chemin qu'empruntent les méchants. L'Éternel est roi pour l'éternité, lui qui est ton Dieu au sillon de génération en génération. Louez l'Éternel. C'était le texte du lundi 10 juin. Et vous vous demandez peut-être pourquoi il m'a fait du bien. Alors j'ai trouvé qu'il parlait quelque part de politique. De la politique de Dieu. D'abord, ce psaume commence et se termine même par la louange. Il fait partie des 5 derniers psaumes de la Bible, 146, 147, 148, 149, 150, qui commencent par louer l'Éternel et qui terminent par louer l'Éternel. Vous pouvez vérifier dans vos Bibles, mais je vois que vous n'avez pas votre Bible. Les choses changent, mais vous pouvez vérifier sur votre portable où il y a la Bible dessus. Alléluia ! Non pas Ya en allemand ou en hollandais pour dire oui, mais Ya comme Yahvé. Alléluia ! Louer l'Éternel. Et d'emblée, on est dans la louange qui va continuer durant toute l'existence. Je te louerai tant que je vivrai et en musique si possible. Alors la préposition « durant toute mon existence » pourrait se traduire « à travers mon existence ». Mon existence est une louange à Dieu. Durant toute ma vie et à travers mon existence, ma vie, je veux te louer. Et là, on pose le cadre de la louange, de la reconnaissance envers l'Éternel, celui qui est, celui qui était, qui est et qui sera, qui se révélait à Moïse dans le buisson ardent, l'Éternel de toute éternité, non créé. Dieu, je veux louer l'Éternel. Et on va voir que le psalmiste va donner de bonnes raisons de louer l'Éternel par la suite, mais il va d'abord, de façon un petit peu inattendue, parler des grands de ce monde. Ne placez pas votre foi dans les grands, dans les puissants, dans les nobles, dans les princes. Un commentaire anglais parlait des leaders de ce monde. Ne pas placer sa confiance dans les leaders de ce monde, et il faut peut-être vite ajouter toute sa confiance. Ne pas placer toute sa confiance. Il est question plus de relativisation que d'autre chose là. Parce qu'il ne s'agit pas de voter une motion de méfiance ou de défiance par rapport aux grands ou aux politiques, mais plutôt de relativiser leur pouvoir. Ils sont incapables de sauver. Ils sont incapables d'apporter le salut ou littéralement, ou de donner la victoire. Et c'est surtout dans la question de la temporalité que c'est relativisé, que leur pouvoir est relativisé. Le pouvoir et la relativité du pouvoir, dès qu'ils ont poussé leur dernier soupir, ils retournent à la terre et au même instant, leurs projets s'évanouissent. Il est intéressant en hébreu de voir un jeu de mots. Ne mettez pas votre confiance en l'humain, en hébreu, en Adam, le terrien. Parce que dès qu'ils ont poussé leur dernier soupir, ils retournent à la terre, Adama, en hébreu. L'Adam, retour à l'Adama. Le terrien retourne à la terre, ou comme l'Ecclésiaste le dit, le grand sage le dit dans Ecclésiaste 3, tout passe. Tout passe et tout trépasse, a-t-on ajouté. Tout va vers une même destination, tout a été tiré de la poussière et tout retourne à la poussière. Et l'Ecclésiaste dit « vanitas vanitatis » en latin, « vanité des vanités, futilité ou finitude de l'homme, relativisation du pouvoir des grands, des puissants ou des politiques. » Et tous leurs projets s'évanouissent. Toutes leurs intentions s'évanouissent, tous leurs programmes politiques s'évanouissent. On relativise le pouvoir politique. Mais il ne s'agit pas non plus de mépriser la politique et le pouvoir politique et dire que tout cela ne sert à rien, que la politique ne sert à rien, ou de parfois dire, comme on l'entend très souvent, de toute façon, ils sont tous pourris. On l'entend parfois. Ils sont tous pourris, les hommes politiques sont tous pourris. C'est pas tout à fait vrai. Ce qui est vrai, c'est que nous sommes tous pourris. Nous avons tous péché. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, dit Paul en Romains. Nous sommes tous quelque part corrompu par le péché. Alors le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. Tout pouvoir corrompt, et nous avons nos petits pouvoirs aussi, et nous sommes donc corrompus petitement. On est tous pris par le péché, et les hommes politiques sont des pécheurs, comme nous, ni plus, ni moins, malheureusement. Alors évidemment, il y a une différence, quand on a plus de pouvoir, il y a une différence entre un ministre du budget qui fait une fraude fiscale monumentale et un petit citoyen lambda qui fait travailler un plombier sans le déclarer. Il y a une différence. Mais ça procède de la même corruption, du même mal qui ronge le cœur de l'homme. Et je crois que ce serait une erreur de s'éloigner de la politique et de s'abstenir de voter par méfiance envers tout ce qui est politique. C'est un argument assez étrange que l'on entend véhiculer par les médias, qui est un argument populiste, une méfiance automatique à l'égard des grands, à l'égard des élites. Et je crois qu'il faut nous faire attention à ne pas non plus attendre trop de nos leaders politiques. Ce sont des êtres humains faillibles, corrompus parfois. Alors on attend d'eux qu'ils soient des exemples. Un peu comme les footballeurs aujourd'hui, il faut qu'ils soient des exemples. Il y a Franck Ribéry, je ne sais pas si vous vous souvenez, il avait vraiment du mal à être un exemple. Mbappé, il s'en sort plus ou moins bien. Enfin, il réclame 100 millions d'euros au PSG, j'ai lu ça hier. Ce n'est pas vraiment exemplaire, lui qui en gagne autant par an. Bref, ils ne peuvent pas être des exemples complets. Alors, je ne veux pas les justifier, ces hommes politiques, ces leaders, mais simplement nous dire de ne pas trop vite non plus les juger, les condamner, et surtout ne pas attendre d'eux qu'ils soient l'homme ou la femme providentielle. Et j'ai lu quelque part que c'était une question très française. Attendre, comme un peu le général de Gaulle, le sauveur de la France, le messie de la France. Ce ne sont pas des sauveurs. Ils ne sont pas là pour ça. Ce n'est pas réaliste, ce n'est pas biblique, ils sont faillibles. Et en tant que chrétiens, nous sommes appelés à participer à la vie politique de notre pays, non pas avec méfiance, mais en relativisant le pouvoir politique de ces grands. Le terrien retourne à sa terre, l'Adam à son Adama. Mais le texte poursuit en disant, après avoir parlé de la relativité du pouvoir, il poursuit en disant, et une béatitude, une, heureux l'homme qui a pour appui le Dieu de Jacob. Une béatitude, comme dans le sermon sur la montagne de Matthieu 5. Heureux les pauvres en esprit ou les spirituellement pauvres. Heureux, bienheureux, béni celui qui a pour secours, celui qui a pour appui le Dieu de Jacob. Alors Jacob, il faut s'en souvenir, ce n'était pas un exemple. Son nom veut dire le tordu. Vous savez, il a chopé le droit d'aînesse à Ésaü, etc. Il a menti à Laban, enfin, un homme torturé, tordu, mais qui se bat un jour avec l'Éternel et qui dit « Je ne savais pas que c'était toi », mais qui se trouve changé par le Dieu de la grâce. Et Jacob, c'est l'exemple parfait, pas l'exemple à suivre, mais l'exemple de la grâce de Dieu à l'œuvre dans l'humain, et chez moi, et chez toi. Heureux celui qui met sa confiance dans le Dieu de Jacob, le Dieu de la grâce, et dont l'espérance est dans l'Éternel son Dieu. Le mot espérance arrive dans le psaume 146. Espérance. Et il y avait de quoi être découragé le dimanche 9 juin et le lundi 10 juin, et je l'étais. Mais quand je pense à cela, j'aime bien ce verset de la deuxième épître aux Corinthiens qui dit « Nous sommes découragés, mais pas désespérés ». Découragés, on peut l'être. On peut perdre courage. On peut perdre littéralement du cœur à l'ouvrage. Mais nous ne sommes pas, parce que nous avons pour appui le Dieu de Jacob, le Dieu de la grâce, nous ne sommes pas désespérés, nous ne sommes pas dans le désespoir. Et alors parfois on peut être quand même désespéré, un petit court instant, mais en reprenant contact avec le Dieu de la grâce, on retrouve l'espérance. Et je me dis qu'il ne faut pas, il ne faudrait pas, en tant que chrétien, se laisser gagner par le pessimisme ambiant, par le défaitisme, par le désespoir. Ce ne serait pas à l'image de notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. D'Abraham, de qui il est dit qu'il espérait contre toute espérance. L'espérance, ça reste un motif je dirais biblique, mais surtout divin. Alors, quelles sont les raisons pour garder confiance ou garder l'espérance? Et là, le texte nous invite à trouver des raisons pour le louer, car l'Éternel a créé le ciel et la terre ainsi que la mer avec tout ce qui s'y trouve, lui qui reste à jamais fidèle. Et d'abord, cette focalisation sur le fait que Dieu est créateur de la vie, de la terre, de la mer là, la terre là. Et j'aime bien l'expression « et tout ce qui s'y trouve ». Pas seulement les poissons, les oiseaux, aussi les poissons, les oiseaux, mais aussi tout ce qui s'y trouve. Toi, moi, il est le créateur de la terre, de la mer, du ciel et tout ce qui s'y trouve, dont nous faisons partie de ce qui s'y trouve sur la terre. Il y a un spiritual a été chanté en 1927 et puis après repris dans les années 50 qui dit « He's got the whole world in his hand ». Il tient le monde dans ses mains, il tient le monde dans ses mains. Je vous fais comme une église américaine, noire américaine, où le prédicateur se va, part dans un chant et puis toute la chorale suit, mais bon, on n'y est pas. Mais les autres strophes, où est la chorale? Les autres strophes disent « He's got you and me, brother, in his hand. » Il a toi et moi, frère, dans sa main. Et on doit se souvenir que le Dieu créateur, il tient le monde dans sa main, le monde qu'il a créé. Et il te tient toi, et moi, et mon frère, et le bébé dans sa main. Et puis, la fin du verset nous le dit, « Lui qui reste à jamais fidèle ». Et je crois que ce lundi 10 juin, c'est le verset qui m'a le plus encouragé. « Lui qui reste à jamais fidèle ». Ce rappel de la fidélité éternelle de Dieu. Il est fidèle pour toujours. Il est fidèle dans le temps. Il est tenace, Dieu. Il est pugnace. Il est opiniâtre. Et j'ai pensé à Roland Garros il n'y a pas longtemps. Vous voyez, il y a une grande affiche et c'est une citation de Roland Garros qui était aviateur, qui disait « La victoire appartient au plus opiniâtre ». Et moi, j'applique ça à Dieu. La victoire finale appartient à Dieu parce qu'il est le plus opiniâtre dans son amour, dans sa fidélité, le plus tenace, le plus pugnace. La victoire appartient à celui qui est le plus tenace, Dieu lui-même, dans son amour manifesté en Jésus-Christ. Et puis, sans crier gare, le psalmiste arrive à la politique de Dieu. Et Matthias, si tu veux le titre pour mettre sur, c'est Psaume 146 ou la politique de Dieu. Et voilà le programme. Car il fait droit aux opprimés, il nourrit les affamés. L'Éternel relâche ceux qui sont emprisonnés. L'Éternel rend la vue à ceux qui aux aveugles. L'Éternel relève celui qui fléchit. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège l'étranger. Il est le soutien de la veuve et de l'orphelin. Ça, c'est un programme, les amis. Ça, c'est un programme politique. Il n'y a rien de mal au mot politique. Hein. C'est la gestion de la ville, la gestion de la cité. Et en fait, dans l'Ancien Testament, tout ce programme, c'est ce que l'on attend du roi d'Israël. Et je passe au psaume 72, qui a été écrit par Salomon. Et regardez ce qu'il dit. Salomon, c'est le roi d'Israël, hein, plein de sagesse. Et c'est la prière du roi. C'est un programme royal. Voilà ce qu'on attend du roi. Et c'est le roi qui prie. « Ô Dieu, accorde au roi de juger comme toi ». Et donne au fils du roi ton esprit de justice, qu'il rende justice à l'égard de ton peuple, selon ce qui est juste à l'égard des pauvres, selon ce qui est droit. Que la paix, et l'image est belle, hein, la paix descende des montagnes, et la justice des collines pour tout le peuple. Qu'il fasse droit aux opprimés et aux malheureux. C'est ce qu'on attend dans le premier testament du roi d'Israël. Ça, c'est le programme royal. Mais dans le psaume 146, on l'applique à Dieu. C'est le programme politique de Dieu lui-même. La défense de l'opprimé. Il fait droit aux opprimés. Il nourrit les affamés. Le psaume 140 dit d'une très belle manière, « Je sais que le Seigneur rend justice aux pauvres et qu'il défend le droit des déshérités. » Défendre le droit de... Monter au créneau pour défendre le droit des opprimés et des déshérités. Et puis, il ouvre les... Il relève celui ou celle qui fléchit, et là on pense à la femme syro-phénicienne dans Luc 13, où Jésus la guérit, parce qu'il y a dans ce programme politique, il y a aussi du prophétique, et on pense à elle, Luc 13, à l'instant même, elle se redressa. Une femme qui était courbée depuis des années, à l'instant même, elle se redressa. Et il vient... rendre la vue aux malvoyants. Et là, on pense à l'aveugle-né, magnifique passage de Jean 9. « J'étais aveugle. » Bon, il est interrogé par les autorités religieuses de l'époque, et il dit « Bon, je ne sais pas si celui qui m'a guéri était vraiment le Messie, vous m'en demandez trop. Je sais qu'une seule chose. J'étais aveugle, et maintenant je vois. » Quel témoignage. Il vient ouvrir les yeux des malvoyants. Il est plein d'amour pour les justes, ça c'est le programme. Hein. Faire droit aux opprimés, relever celui ou celle qui fléchit, rendre la vue aux malvoyants, aimer la justice. Il est plein d'amour pour les justes. Il aime la justice, la justice. C'est-à-dire ceux qui pratiquent les justes, ceux qui pratiquent la justice. Et ça me fait penser au sermon sur la montagne que nous avons vu dernièrement, ce printemps, et cette phrase de Jésus dans Matthieu 5, encore une fois, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu, cherchez premièrement, en priorité, le royaume de Dieu et sa justice. » Sa justice, c'est de pratiquer ce qui est juste aux yeux de Dieu. Et ce qui est juste aux yeux de Dieu, c'est de défendre l'opprimé, de défendre les déshérités, de soutenir les veuves et les orphelins, qui sont à l'époque les personnes les plus précaires. Et il y a cette phrase magnifique dans le psaume 68, « Dieu, l'Éternel, l'Éternel est le père des orphelins, et il est le défenseur des veuves. » Alors aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui sont en situation précaire. Je pense à ces femmes abandonnées par leur mari pour quelque raison que ce soit, et qui sont avec des enfants et qui se battent pour survivre. La politique de Dieu, c'est aussi de protéger l'étranger, l'immigré ou le résident temporaire, on peut traduire différemment. Mais quel que soit le statut, cet étranger, ce résident temporaire, cet immigré, il est en situation précaire et il ne vient pas de chez nous. Il n'est pas de souche. Et Dieu désire le protéger. Et il désire que nous le protégions. Alors, on ne va pas trop insister là-dessus, mais la question de l'immigration est importante. Bon, il paraît que ce n'est pas le plus grand souci des Français quand même. Hein. Selon les sondages, c'est d'abord le pouvoir d'achat. Ensuite, l'accès aux services publics. En troisième lieu seulement, l'immigration. Et c'est une question complexe. Mais au nom de la complexité, on ne va pas non plus se mettre à manquer d'accueil, à manquer d'ouverture, ou à manquer d'amour. Et quand certains commencent à parler de Français de seconde zone, ou de Français de papier, Là, il y a un signal d'alarme. Je cite, hein, je l'ai eu, quelqu'un disait, les Français d'origine étrangère qui aiment la France n'ont rien à craindre. Les Français d'origine étrangère qui aiment la France n'ont rien à craindre. Est-ce que je suis obligé d'aller toutes les semaines à la préfecture et dire « j'aime la France » ? Est-ce que ça ne fait pas une distanciation, deux zones ? Alors, ceux qui ne montrent pas de grand enthousiasme par rapport à la France, ils ont à craindre ? Ils ont à avoir peur ? Et puis, autre chose, il est question d'empêcher les binationaux d'accéder à certains emplois publics. Parce que tu es franco et quelque chose, tu n'as pas le droit d'aller voir, d'accéder à certains emplois. Ça commence par des petites choses, mais le fond, on ne protège pas l'étranger, l'immigré ou le résident temporaire. Et on se doit donc de poser des questions par rapport à ces phrases qui sont sorties comme ça. Est-ce que c'est en rapport avec la politique de Dieu ? Ou plutôt en rapport avec le caractère de Dieu, avec le cœur de Dieu. Deutéronome 10, dans le Pentateuque. Il, et au-dessus c'est marqué, le grand, dans le texte, le grand Dieu puissant et redoutable. Puissant et redoutable. On pose aussi le cadre. Témoigne de son amour à l'étranger en lui assurant le pain et le manteau. À force, ça. Ça, c'est le cœur de Dieu. Ça, c'est l'inclination de Dieu, l'inclinaison du corps de Dieu, du cœur de Dieu. Et quand on lui parle de, en lui assurant le pain et le manteau, je pensais encore une fois à ce sermon sur la montagne, si quelqu'un te demande sa chemise, donne-lui aussi ton manteau. Si quelqu'un te demande ta chemise, donne-lui aussi ton manteau. Et donc, la description du caractère de Dieu, de l'inclinaison de Dieu, on retrouve dans ce mot « justice hein, », que j'ai souligné plusieurs fois, et qui veut dire tout simplement, et pas simplement rendre justice, peser voilà, s'il est le justiciable, mais selon les pasteurs Louis Schweitzer et Luc Olechnowitz, Louis Schweitzer, pasteur baptiste, Luc Olechnowitz, pasteur évangélique libre, qui ont écrit un collectif en 2015 sur la foi et la politique, mais la justice dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, c'est tout simplement l'amour du prochain, le soin de l'autre, la défense de l'autre, et la politique de Dieu, peut-être la nôtre, c'est l'amour du prochain. Le soin de l'autre. Et c'est ce qui pourrait nous guider peut-être dans notre vote la semaine prochaine pour les législatives. On y arrive à ce vote. Et pour les élections. Et là, je ne vais pas vous dire pour qui voter, ne vous inquiétez pas. Mais je lisais cette phrase intéressante qui disait « Il n'y a pas de vote chrétien. » Il n'y a pas, j'ai trouvé pertinente, un vote qui serait obligatoire pour le chrétien. Si tu es chrétien, tu dois voter ça. Qui serait représentatif de tous les chrétiens. Que tous les chrétiens devraient voter pour. Non, il faut se souvenir qu'on ne vote pas pour le royaume de Dieu. Il n'y a pas de vote chrétien, mais quand même, il y aurait une manière de voter en tant que chrétien. Et la question est de savoir ce qui nous inspire pour voter, ce qui nous mobilise, ce qui nous motive, quel est le levier. Et il y a plusieurs leviers. Quels sont ? La peur ? Est-ce qu'on vote parce qu'on a peur ? Les mouvements populistes, que ce soit à droite ou à gauche, jouent sur la peur. C'est un levier électoral, la xénophobie, phobie, peur, peur de l'autre, la peur du grand remplacement. Il faut signaler que la peur n'est pas un fruit de l'esprit. Dans Galates 5, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la patience, etc. Et la peur n'est pas un fruit de l'esprit. Vous savez, vous connaissez le commandement le plus fréquent dans la Bible. N'ayez pas peur. On ne joue pas, on vit pas avec la peur, on ne joue pas avec la peur. On ne veut pas voter par peur. Enfin, on ne voudrait pas voter par peur. Alors, serait-ce la colère? On vote par colère, par contestation. On ne vote pas pour, mais on vote contre. On vote contre. On est dans le non, parce qu'on en a ras-le-bol. C'est une forme un peu moins forte de la colère. Mais ras-le-bol. On a vu ce geste à la télévision. On en a ras-le-bol. Donc on va voter parce qu'on en a ras-le-bol. Et on va peut-être mal voter. La colère est mauvaise conseillère. Le ras-le-bol aussi. Et puis, il y a aussi, est-ce qu'on va voter parce qu'on n'aime pas, parce que par haine, ou par détestation, comme on dit aujourd'hui, il y a Christian Krieger, le pasteur Christian Krieger, qui nous a envoyé un communiqué de la Fédération protestante de France. Vous savez que nous faisons partie de deux fédérations, le CNEF, ça c'est les évangéliques, et la FPF, la Fédération protestante de France, et il a écrit tout un communiqué que j'afficherai plus loin. Bon, ça ne, c'est de lui, c'est la parole d'un homme, hein, mais le titre est intéressant. « Rien ne se construit sur la détestation d'autrui ». Là non plus, ça ne mène pas à un vote intéressant. Non, ni par peur, ni par colère, ni par haine, c'est pas ce qui nous pousse, mais ce qui nous pousse, ben c'est le psaume 146, c'est le sermon sur la montagne, c'est l'évangile, c'est la Bible dans son ensemble. Alors oui, il y a des considérations économiques, mais celles-ci ne doivent pas passer devant ce qui nous caractérise en tant que chrétiens, hommes et femmes, créés à l'image de Dieu, qui reçoivent de sa parole, qui cherchent à ressembler au caractère de Dieu, au cœur de Dieu, au s'approcher du cœur de Dieu. Et on veut voter aussi dans cet esprit de justice, dans l'amour du prochain, dans le soin de l'autre, dans l'option du bien commun, dans l'intérêt des autres, dans le décentrement. Et je lisais aussi une prédication d'un ami qui est venu prêcher ici deux fois en 2019, je crois, Florian Bonzon, qui disait que le vote devait se faire dans la recherche du bien commun et non dans la recherche de mes intérêts personnels. Et ça s'appelle le décentrement. Et c'est ce qui est dit dans Philippiens 2, rechercher les intérêts des autres, rechercher le bien commun. Et comme je l'ai dit au culte en commun il y a trois semaines, lors d'une session de parcours alpha, on a parlé de ce Philippiens 2, rechercher les intérêts des autres. Et là, il y a un motard qui a dit « Merde, ça, c'est pas facile. Mince, ça, c'est pas facile. » Non, c'est pas facile. C'est le décentrement de la vie chrétienne. Parce que le réflexe normal, et ce serait de voter pour celui qui va défendre le mieux mes intérêts. C'est humain, hein, tellement humain. Ceux qui s'approchent comme moi de la soixantaine seraient tentés de voter pour la liste qui va travailler sur la retraite à 55 ans. Ceux qui sont dans la fonction publique seront enclins à voter pour ceux qui défendent le mieux les fonctionnaires. Ceux qui travaillent dans la santé, et ainsi de suite. Et il n'y a rien de mauvais, mal là-dessus, mais ce sont des domaines importants, il y a du travail à faire, mais en tant que chrétien, on ne va peut-être pas avoir comme principe de base de voter pour ceux qui défendent le mieux mes propres intérêts. Non, on va essayer de se décentrer sur soi et de voter pour le bien commun, pour le soin des autres, pour les valeurs du royaume, pour la politique de Dieu. Alors le vote reste extrêmement difficile. Moi, je ne pourrais pas vous rejoindre dans l'isoloir, d'ailleurs parce qu'on est tout seul dans l'isoloir, mais parce que je ne suis pas français, bien que né en France et de culture complètement française. Les programmes ne sont pas très clairs, on s'y perd un peu. Tout n'est pas parfaitement aligné, il y a du bon et du moins bon un peu partout, et on sera toujours dans le compromis, hein. On sera toujours dans la recherche de la moins mauvaise solution. D'ailleurs, à ce sujet, il y a nos enfants qui nous ont montré une application qui s'appelle Polytest ou Test Poly, Polytest, et qui, vous avez une liste de questions qui viennent des programmes, des différentes listes électorales, et à la fin, pas mal de questions, et à la fin, ils vous disent, selon vos réponses, vers quelle partie vers quelle liste vous vous rapprochez. En 1, 2, 3, 4, avec des nuances. Vous vous rapprochez de cette liste du parti, du programme de ce parti, mais vous êtes plus conservateur à ce niveau-là, etc. Des trucs comme ça. C'est intéressant. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile, c'est un peu une jungle, et puis je le marque que la grâce de Dieu nous accompagne lors de ces prochaines semaines d'élection. Il faut qu'on garde en tête que nous sommes de ces citoyens du royaume et que nous sommes appelés à participer à la vie politique de notre pays avec d'autres choses en tête que la défense de mes propres intérêts. Nous sommes appelés à marcher à la suite du Christ, celui du sermon sur la montagne, celui de Philippiens 2, dans lequel il nous dit qu'il s'est dépouillé, il s'est humilié lui-même, qu'il a recherché les intérêts des autres, mais qu'il s'est donné pour nous, celui qui nous a donné notre nouvelle identité, comme nous l'a rappelé Yvonne tout à l'heure, en lui, en Christ. Un chrétien, une chrétienne, qui, comme disait quelqu'un, a les pieds bien sur terre, mais la tête dans les nuages. La tête au ciel, mais les pieds bien sur terre, dans la politique, dans la vie de citoyens, citoyennes de cette terre aussi, de ce pays. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ce psaume, pour cette parole d'un auteur inconnu d'ailleurs, ni David, ni Salomon, mais merci pour cette parole d'espérance, pour cette parole de confiance, pour cette parole aussi de relativisation des grands et des puissants, pour ce rappel que c'est toi qui sauves, mais pour aussi ce rappel de ta vision des choses, de ton cœur, de ton caractère. Ton cœur incline vers la défense des plus défavorisés. Merci pour ta révélation en Jésus-Christ, pour le sermon sur la montagne, pour la croix, pour le don de toi, pour que nous puissions vivre en liberté et en responsabilité. Seigneur, que ta grâce nous accompagne dans cette période troublée que nous vivons en France, en Europe et dans le monde entier. Que ta justice, Seigneur, soit faite. Que ton royaume vienne. Que ta volonté également soit faite. Oui, au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen.